الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa seule permission ces cours dans lesquels nous lisons des parties du Coran et nous en donnons l'essence et l'exégèse de manière résumée. Aussi, nous essayons d'en tirer les règles religieuses et les leçons. Nous en sommes à la sourate Al-Kahf, la sourate la caverne, au verset 21. A'udhu billahi al-sami'i al-alim min ash-shaytani ar-rajim. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset 21: tout comme nous les avons endormis et réveillés, nous les fîmes découvrir par les habitants de la cité lorsqu'ils divergèrent concernant la résurrection, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'ait point de doute sur l'avènement de l'heure. Puis Allah les fit mourir et certains dirent « Érigez une façade et laissez-les. Leur Seigneur sait mieux que quiconque ce qu'il en est d'eux. » Mais ceux dont l'avis l'emporta dirent « Élevons au-dessus d'eux un lieu de prière. » Dans ce verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala informe les hommes au sujet de l'état des gens de la caverne. Et cela, et Allah est plus savant, après qu'ils furent réveillés et qu'ils envoyèrent l'un d'entre eux avec de l'argent pour leur acheter de la nourriture, en lui recommandant de se cacher et de ne pas révéler leur cachette. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout de même une chose dans laquelle il y a un avantage pour les gens et un moyen d'augmenter leur récompense. En effet, les hommes ont vu dans leur situation un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut voir de visu, leur prouvant que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique, qui ne souffre d'aucun doute ni de scepticisme. Après qu'ils aient engagé une discussion à leur sujet, les uns attestant de cette promesse et de la rétribution qui en découle, et les autres niant cela. Il a fait donc de leur récit un moyen de renforcer la clairvoyance et la certitude des croyants et un argument contre les mécréants négateurs. Les croyants obtinrent donc une rétribution grâce à ce récit. Allah subhanahu wa ta'ala fit connaître leur récit et éleva leur dignité et leur honneur au point où ils furent vénérés par ceux qui apprirent ce récit. Ces derniers dirent « Murons-les sous une maçonnerie, de façon à ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala soit informé de leur mystère et de leur sort. » Mais ceux dont l'avis l'emporta, c'est-à-dire ceux qui avaient le pouvoir de décision, dirent « Élevons plutôt au-dessus d'eux un lieu de prière, un sanctuaire. » C'est-à-dire un sanctuaire où nous adorerons Allah et où nous évoquerons leurs souvenirs et leur situation et ce qui leur est arrivé. Ce récit n'est pas la preuve qu'il est permis d'ériger des sanctuaires ou des lieux de prière sur les vestiges des morts, car ceci a été interdit en islam. Ce récit montre seulement que les gens qui avaient le pouvoir de décision ont pris cette décision. Donc ce n'est pas parce qu'il est cité dans le Coran que cela veut dire que c'est légiféré de faire cette chose-là. Il est cité comme une histoire, comme ce qui s'est passé. Allah Ta'ala cite ce qui s'est passé et non pas pour approuver la décision qu'ils ont prise. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes et de leurs gens pieux comme lieu de prière. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça, c'est les gens du livre. C'est arrivé à l'époque des gens du livre qui ont pris les tombeaux de ces gens pieux comme lieu de prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a maudits et a dit qu'Allah les maudisse. Et il a interdit de les suivre en cela. Donc, bâtir des sanctuaires ou des lieux de prière au-dessus des morts parmi les saints ou les prophètes, c'est une des plus grandes causes de tomber dans le shirk, le polythéisme. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit cela, même quelques moments avant sa mort. Il a dit « Ne faites pas de mon tombeau un lieu de fête, c'est-à-dire un lieu où vous revenez tout le temps. » Et il a maudit les juifs, comme le hadith qui est cité auparavant, et les chrétiens qui ont pris les tombeaux et les tombes de leurs pieux et de leurs prophètes comme lieu de prière, comme sanctuaire. D'ailleurs, il y a aussi dans ce récit une preuve quant au fait que celui qui fuit les tentations pour préserver sa religion sera sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a sauvé les gens de la caverne, ces jeunes gens qui ont fui les tentations pour préserver leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé leur religion. Allah leur a accordé refuge. Allah leur a accordé protection. De même, toute personne qui fuit la tentation pour préserver sa religion, qui se soucie de son salut, Allah le lui accordera. Celui qui se réfugie auprès d'Allah, Allah lui accordera sa protection. Il fera de lui un guide pour autrui. De même que celui qui supporte l'humiliation pour Allah, dans la voie d'Allah, pour obtenir la satisfaction d'Allah, finira par obtenir la grande dignité de là où il ne s'y attend pas. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les gens pieux. Puis dans le verset numéro 22, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, les uns diront, ils étaient trois, le quatrième étant leur chien, et les autres diront, ils étaient cinq, le sixième étant leur chien, sans connaissance certaine, ou encore, ils étaient sept, le huitième étant leur chien. Réponds-leur, mon Seigneur connaît mieux que vous leur nombre, et bien peu le connaissent. Ne discute donc pas avec les gens du livre à leur sujet, que de manière superficielle, et ne consulte aucun d'eux en ce qui les concerne. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe sur les divergences entre les gens du livre au sujet du nombre des gens de la caverne. Des divergences dues à leur manque d'informations à ce sujet. Ils se divisèrent en trois avis concernant cette question. Pour les uns, ils étaient au nombre de trois plus leur chien. Pour les autres, ils étaient au nombre de cinq plus leur chien. Après avoir mentionné ces deux avis, ces nombres, Allah affirme que leurs auteurs ne font que conjecturer sur l'invisible, ce qui prouve leur aberration. Pour les troisièmes, ils étaient au nombre de sept, plus leur chien. C'est cette dernière opinion, et Allah est plus savant, qui est la plus juste, car Allah a réfuté les deux premières opinions et n'a pas réfuté cette dernière. Ce qui montre sa justesse. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il s'agit d'une divergence qui n'a aucune utilité. Car la connaissance de leur nombre n'apporte aucun avantage, qu'ils soient religieux ou profanes ou mondains. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, « Mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. Il s'agit de ceux qui ont su leur nombre. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet, c'est-à-dire ne pas trop polémiquer à leur sujet, à moins que ce ne soit une discussion bâtie sur des arguments et sur la certitude, et qu'elle ne génère pas de désavantages, mais qu'elle génère plutôt des avantages, un bien. Par contre, les polémiques stériles, bâties sur l'ignorance et les conjectures, ou qui ne génèrent aucun avantage, que ce soit en raison de l'entêtement de l'un des protagonistes ou en raison de la futilité de la discussion, dont la connaissance ne génère aucun avantage religieux, comme le nombre des gens de la caverne et autres, elles font perdre du temps et n'apportent aucun avantage à leurs auteurs. Et subhanallah, ça c'est une chose aussi à apprendre par nos petits frères et nos petites sœurs qui posent beaucoup de questions inutiles. Des choses qui n'ont aucun intérêt pour leur religion et qui ne leur apportent rien d'utile dans leur vie. Combien était leur nombre? Quelle couleur était le vêtement de tel prophète? Est-ce qu'il était à tel endroit plutôt qu'à tel endroit? Est-ce que ça t'apporte quoi? Que dire alors les polémiques futiles entre les frères et sœurs dans les différents groupes de discussion pour savoir qui a raison? En fait, chacun est là à défendre sa propre personne. Non, mais j'ai raison. Non, mais c'est pas droit, c'est moi qui ai raison. Et après, toutes ces polémiques sont réprouvées en islam. En islam, on ne polémique pas. On apprend. On apprend des gens de science. Et on pratique. Quand on ne sait pas, on demande. C'est pas en polémiquant qu'on arrive à la vérité. C'est pas dans des débats. C'est pas comme chez les koufars. Ah, on va débattre à la fin, ils vont en sortir la vérité. Ça n'existe pas chez nous, ça. Chez nous, on apprend en questionnant. Car la science est un héritage. La science n'est pas le résultat ou la résultante d'un groupe de débat, d'une assise de débat, où chacun donne son avis. Dans une assise, il n'y a que celui qui sait qui parle. Les gens qui ne savent pas se taisent et écoutent. Ils apprennent. Malheureusement, combien d'assises on voit où il y a des connaisseurs qui sont assis et les ignorants prennent la parole et coupent la parole aux connaisseurs et donnent leur avis sur tout. Oui, mais j'ai entendu, oui, mais j'ai lu, oui, mais. Mais tu es qui, toi? Tu as appris où? Et on pourrait dire la même chose sur les réseaux sociaux, qui sont des assises virtuelles, où tout le monde donne son avis. Tellement tout le monde donne son avis que la voix des gens qui connaissent est étouffée et la vérité est cachée et perdue au milieu de tous ces avis qui sont lancés. Alors les gens sont perdus. C'est pour cela que cette parole qui vaut de l'or, si celui qui ne sait pas se taisait, la vérité augmenterait et le faux diminuerait. Si celui qui ne sait pas se taisait, gardait le silence, la vérité augmenterait et le faux diminuerait. Mais subhanallah, où sont ceux qui écoutent ces paroles? Allah tabarak wa ta'ala a interdit ici à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander aux gens du livre à propos des gens de la caverne. Mais cette interdiction est plus générale. C'est l'interdiction à quiconque de demander l'avis d'une personne qui n'est pas apte à donner une réponse. Et c'est ce qu'a dit l'imam Sa'di en disant dans le sens, il y a là la preuve de l'interdiction de demander l'avis de celui qui n'est pas apte à faire cela, soit en raison de son incapacité à répondre, c'est-à-dire il est ignorant à ce qu'on lui demande, soit parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit et qu'il est dénué de scrupules pouvant le réfréner. C'est-à-dire que, comme il craint pas Allah, il ne sait pas se retenir. Il va parler quand il connaît et il va parler aussi quand il ne connaît pas. Il ne va pas être capable de dire « Allahu a'lam », je ne sais pas, j'ignore cette question. Si il lui est interdit de demander, s'il est interdit de demander l'avis à cette catégorie de personnes, il est encore plus interdit, à plus forte raison, à cette personne de faire cela, c'est-à-dire de parler sans science, de parler alors qu'il n'est pas apte. Il y a aussi dans ce verset la preuve qu'une personne ne peut pas être consultée au sujet d'une question, mais peut l'être au sujet d'une autre question dont il a connaissance. Par exemple, on peut consulter un boucher concernant les viandes, mais on ne va pas le consulter concernant la religion. On peut consulter un dentiste concernant les soins dentaires, mais on ne va pas le consulter concernant l'ophtalmologie ou concernant même la mécanique. Et ainsi de suite. On va consulter les gens dans le domaine qu'ils maîtrisent, qui est le leur. Et cette règle, tout le monde la connaît dans les choses de dunya, mais quand il s'agit de la religion, tout le monde l'oublie. Tout le monde consulte tout le monde. Ou il pose des questions ouvertes comme ça sur les réseaux sociaux. Dites-moi, est-ce que ça c'est bien? Allez, chacun donne son avis. Comme si c'était un sondage. Comme si la vérité, elle se reconnaissait au sondage. À la majorité. Allahu musta'an. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala ici a interdit de les questionner, les gens du livre, sur ce sujet car ils ne le connaissent pas. Mais il n'a pas interdit de les questionner sur d'autres choses qu'ils pourraient connaître. Ainsi, Allah a interdit à toute personne de questionner une personne qui ne connaît pas un sujet ou qui n'est pas apte à répondre dans ce sujet. Mais il ne lui a pas interdit de le questionner dans des choses qu'il maîtrise. Puis Allah, tabaraka ta'ala, dans le verset 23 et 24, dit, dans le sens de sa parole, « Ne dis jamais d'une chose, je ferai cela demain, sans ajouter, si Allah le veut. Mentionne ton Seigneur s'il t'arrive d'oublier, et dis, puisse mon Seigneur me guider vers ceux qui est plus proche de la droiture. » Donc si tu oublies de dire « Incha'Allah », si Allah le veut, dis-le lorsque tu t'en souviens. Ou encore, si tu oublies une chose, mentionne Allah, car l'oubli vient de Shaytan. Et la mention d'Allah fait fuir le Shaytan. Si tu es interrogé sur une chose que tu ignores, alors il faut s'orienter vers ceux qui peuvent te renseigner. interroge Allah à ce sujet, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, ceux qui peuvent enseigner le Coran et la Sunna. Et quand il s'agit de faire un choix dans les choses de dunya licites, oriente-toi vers Allah en faisant la prière de consultation. Bien sûr, la prière de consultation ne se fait que dans les choses licites. La personne ne consulte pas Allah, est-ce que je travaille dans une banque? Est-ce que je travaille dans une assurance? Est-ce que je porte le voile ou non? Est-ce que je prie ou non? La personne consulte Allah dans les choses halal. Est-ce que je voyage cette semaine ou la semaine prochaine? Est-ce que je me marie plutôt avec telle femme ou plutôt avec telle femme? Par exemple. Après que, en apparence, toutes les choses paraissent positives. Après cela, elle questionne Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que j'achète cette voiture ou non? Est-ce que je m'engage dans tel commerce ou non? Mais pas dans les choses qui sont clairement illicites. Il n'y a pas d'istikhara dans l'illicite. L'istikhara, c'est dans les choses licites. Pareil, il n'y a pas d'istikhara dans les choses obligatoires. On doit la faire. L'obligation, on doit le faire. Point. Le haram, Allah t'a déjà répondu. Délaisse-le. Point. Donc, tu ne poses pas la question à Allah, est-ce que je délaisse tel haram? Non, c'est haram. Délaisse-le. Donc, la question se pose dans les choses qui ne sont ni interdites ni obligatoires. Les choses licites de la vie. Dans cette interdiction qui est semblable à la première, et bien qu'elle ait une cause particulière et qu'elle concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ne pas dire que je vais faire telle chose demain sans dire Inch'Allah, elle a un caractère général. Elle n'est pas propre à la situation qui est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'homme de dire dans les choses relevant de l'avenir, certes je vais faire telle chose demain. Sans associer sa parole à la volonté d'Allah. Et ce, en ce que cela contient comme spéculation sur l'avenir, dont il ne sait pas s'il va faire ce qu'il veut ou pas, ou si cela va avoir lieu ou pas. Il y a là aussi l'interdiction d'attribuer la volonté à l'homme de façon indépendante et absolue, car la volonté entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté de l'homme est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui facilite les choses et c'est lui qui facilite l'obtention des bénédictions et c'est lui qui facilite que l'homme place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul dans le fait de dire Inch'Allah. Si Allah me le permet, si Allah le veut, si Allah le veut, dans la mesure où l'homme est un être humain qui est soumis à l'oubli et qui peut omettre de mentionner la volonté d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne de se rappeler après qu'il ait oublié, afin d'obtenir ce qui est recherché et de repousser ce qui est interdit. On peut en déduire du sens général de la parole « Évoque ton Seigneur s'il t'arrive d'oublier » l'ordre d'évoquer Allah lorsqu'on oublie, car cette évocation fait dissiper cela et l'homme peut se rappeler ce qu'il a oublié. C'est ainsi qu'on doit rappeler celui qui est insouciant, celui qui est négligent dans l'évocation d'Allah, de se rappeler son Seigneur et de ne pas être du nombre des insouciants. Et dans la mesure où l'homme se trouve dans le besoin qu'Allah l'assiste dans la réussite et la justesse dans ses paroles et ses actes, Allah lui ordonne de dire « Plaise à mon Seigneur de me guider vers le chemin de la rectitude. » Il lui ordonne d'invoquer Allah, d'espérer en lui et de placer sa confiance en lui seul, afin qu'il le guide dans la voie la plus proche du bon sens. Il est normal, certes, qu'un homme qui se trouve dans une telle situation et qui prodigue tous ses efforts pour obtenir la guidance et le bon sens soient assistés dans sa quête et que l'aide lui arrive de la part de son Seigneur dans toutes ses affaires. Puis dans les versets 25 et 26, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens « Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans auxquels s'ajoutèrent 9 années. » Auxquels s'ajoutèrent 9 années. 309 années lunaires. Qui correspondent à 300 années solaires. Car toutes les 100 années solaires s'ajoutent 3 années lunaires. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala mentionne les années de cette manière. 300 ans plus 9 ans. Puis, il dit dans le sens du verset 26, dit « Allah sait mieux que quiconque combien de temps ils y séjournèrent. Lui seul connaît ce que cachent les cieux et la terre. Il est celui qui voit et entend parfaitement toutes choses. Aucun autre que lui n'administre les créatures et il n'associe personne à son commandement. » Après avoir interdit à son messager de demander conseil aux gens du livre au sujet des gens de la caverne, en raison de leur méconnaissance de leur situation, et dans la mesure où c'est Allah le connaisseur de l'invisible et du visible, le connaisseur de toutes choses, il l'informa de la durée de leur séjour dans la caverne, en lui disant que la science de cela lui appartient à lui seul, car cela fait partie des choses de l'imperceptible et de l'invisible. Or, les choses de l'imperceptible relèvent de la connaissance exclusive d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, tout ce dont il informe ses messagers est la vérité, relevant de la certitude qui ne souffre d'aucun doute. Alors que ce dont il n'informe pas ses messagers, personne ne peut le savoir. Et nul n'entend ni ne voit mieux que lui, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer la perfection de son ouïe et de sa vue qui embrasse toutes les choses auditives ou visuelles après avoir informé que sa science embrasse toutes les choses. Ensuite, il informe de sa possession exclusive de la protection, qu'elle soit générale ou spécifique, particulière, car il est le protecteur qui dispose de tout l'univers, le protecteur de ses serviteurs croyants, qu'il fait sortir des ténèbres à la lumière, à qui il facilite la voie vers la voie droite et qu'il préserve de la voie difficile. C'est pour cela qu'il dit dans le sens « Les hommes n'ont d'autre protecteur que lui. » C'est-à-dire que c'est lui qui a pris sous sa protection les gens de la caverne, avec sa compassion, sa miséricorde, sa générosité, sans les laisser à la merci d'une quelconque personne. Car Allah Ta'ala n'associe personne à son autorité. Cela englobe le pouvoir universel et cosmique déterministe, ainsi que le pouvoir légal et religieux, législatif. Car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui commande ses créatures, que ce soit sur le plan du décret et de la prédestination, comme sur le plan de la création et de la disposition. De même qu'il les commande, subhanahu wa ta'ala, avec ses ordres religieux et ses interdits, avec ses récompenses et son châtiment. Subhanahu wa ta'ala, le commandement lui revient à lui seul. Et il n'associe personne à son autorité et à son commandement. Après avoir rappelé qu'il possède la connaissance du mystère des cieux et de la terre, sans qu'aucune créature n'ait accès à cela, sauf l'accès qu'il révèle à ses serviteurs, et dans la mesure où ce Coran contient beaucoup de choses de l'invisible et de l'imperceptible, Allah Tabaraka Ta'ala incite les croyants à se tourner vers lui en pratiquant ce qui est lu dans le Coran quand il dit dans le verset 27 dans le sens « Récite et suis ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. » La récitation ici signifie le fait de se conformer. Conforme-toi à ce qu'Allah t'a révélé. En assimilant ses significations, son sens, en les méditant, en y croyant, en croyant en ses récits, et en se conformant à ses ordres et à ses interdits. Car ce Coran est le livre majestueux dont les paroles ne peuvent être modifiées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être changées en raison de leur sincérité, de leur équité et de leur parfaite excellence. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Telle est la parole de ton Seigneur qui s'est accomplie en toute sincérité et en toute justice. En raison de leur perfection, il est impossible qu'elles obéissent au changement ou à la modification, car si elles étaient imparfaites, elles seraient exposées à cela. Il y a là une glorification du Coran, en ce sens qu'il contient une incitation à le réciter et à s'y conformer. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'en dehors de lui, on ne pourrait trouver de refuge. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas en dehors de ton Seigneur un refuge où te réfugier, ni un secours à solliciter. S'il s'avère qu'il est le seul refuge en toutes circonstances, il s'avère forcément qu'il est le seul Dieu qui mérite d'être adoré, être aimé et désiré, que ce soit en cachette ou en public. Celui dont on a besoin en toutes circonstances et qu'on sollicite dans toutes nos requêtes. والله تعالى أعلى وأعلم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم